France Inter.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec cette semaine Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, une semaine de vacances scolaires et donc une semaine de sélection.
Et oui, et ce matin, elle est seule sur scène avec In Vigno Veritas, one woman show drôle mais pas que, engagé mais pas que et touchant mais pas que, Caroline Vigno.
Engagé, spectacle engagé, bah déjà qu'elle nous fasse rire, après on verra.
Bah c'est ce qu'elle va faire.
Ouais, bah j'attends.
Bienvenue Caroline.
Merci beaucoup.
Ravi de vous accueillir. In Vigno Veritas, le nouveau spectacle de Caroline Vigno au théâtre Édouard VII.
Vous êtes prête ?
Pas du tout.
Ah, c'est la bonne nouvelle.
D'autant qu'elle est auteur, compositeur, interprète, producteur, metteur en scène, chorégraphe, lumière, enfin, le son, fait tout.
Oui, alors,
c'est la première fois que vous faites tout, en tout
oui,
cas.
Oui, c'est la première fois que je produis et c'est très, très, très.
Flippant.
Oui, c'est-à-dire que c'est engageant. C'est-à-dire que j'ai fait un emprunt, mis ma maison en gage.
Ouais.
Donc c'est engageant.
Dans tous les sens du terme. Voilà. En tout cas, on n'est pas inquiet, je ne suis pas inquiet. Beaucoup ri, pleuré également, c'est extrêmement émouvant. Comme on dit, vous m'avez
Tu pleures vite.
Ah non, elle m'a bien chopé.
Non,
elle m'a bien chopé. Elle m'a bien
chopé.
Ça sera au théâtre, très beau au théâtre Édouard VII. Mais d'abord, Blind Test. Qui chante ça?
Ah, je suis nulle en Blind Test.
Tanguy, c'est M6 Solar.
Ah, je sais, je connais. Oui, mais c'est Caroline.
Bah oui.
J'aurais dû la reconnaître quand même, celle-là. C'est ma chanson. Il l'a écrite pour moi.
Trop tard. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Premier point pour Tanguy Pastureau, bien joué. Qui chante ça?
Ah, je
Tanguy.
Sais.
Ah non, ah, c'est qui c'est?
Tanguy,
je
Caroline.
Elmer Footbeat.
Oui. Mais oui, c'est Caroline.
Caroline.
Je
crois que nous avons un thème.
Elle m'a pourri mon adolescence.
C'est vrai?
Ah ouais. Et oui, en soirée, tout le monde venait autour de moi en disant. Hey.
C'est ton moment.
Ouais.
Il y avait la grosse jeu sur le même album.
C'est vrai.
Et Daniela,
je suis pas sûr qu'Elmer Footbeat pourrait faire les mêmes paroles aujourd'hui.
Oh, la grosse Jocelyne, ça se vit bien.
Daniela
ouais, sauf quand tu as
Daniela,
oui,
Daniela,
non. Non, Daniela, je crois pas, non.
Non, non, et Caroline non plus. Hein.
Et là.
Ah bon.
Ah, c'est Caroline.
Daniela.
J'ai compris.
Daniela. Neil Diamond.
Oui.
Quelle esthète.
Sweet Caroline.
Là, c'est tout moi.
Pour le coup, là, ça va.
Un peu sweet, un peu Caroline.
Mais
ça. Ah, ça marche plus.
Neil Diamond.
Désolé Caroline.
Ah, je sais, je sais. Oui, je l'ai.
Un mec qui est désolé.
Il parle de cocaïne. Et il s'appelle. Non. Et j'adore.
Leïla de la Vega, de la Vega.
Non.
De la Vega.
Mais non, pas du tout.
Frérot de la Vega.
Ah, frérot de la Vega.
Eddie de Preto.
Ah oui.
Bravo Caroline.
T'es à ça, Leïla. À ça de pas l'avoir.
De la Vega, de la Vega.
En haut, quoi.
La forêt de la Vega.
J'y arrive jamais.
Non. Tu as dit quoi de la Vega?
Don Diego.
Frérot de la Vega.
Don Diego de la Vega.
Pardon.
Je suis fatigué, Leïla.
Je connais pas bien.
Désolé, Caroline. Je dois retrouver mes proches de mes élans passionnés. On rejoint un peu votre valise dans le spectacle avec les paroles d'Eddie de Preto dans cette chanson. Qui chante ça?
Ça, c'est du rock.
Du vrai, du pur, du dur. Du binaire.
C'est Johnny, non?
Caroline.
Qu'est-ce
qu'il
chante ça?
ACDC?
Non, plus, tu vois, plus.
Plus ça, d'accord.
Vas-y, quoi. Plus binaire. C'est pas ACDC, non.
Plus binaire? Rock, Elvis.
C'est français?
Non.
John
non. Non. C'est un groupe.
Airborne, Led Zepp.
Non.
Plus récent.
Attends, laissez chanter, tu vois, c'est vraiment le genre. Ah, il chante pas. C'est un son brutal.
Une dance? Une dance?
Faut mettre la face B du disque.
Kiss. Kiss.
Ah, les Beach Boys.
Non.
Les Beatles.
Non plus.
Les Fox.
Ils avaient fait Walking All Over the World.
Les Rolling Stones.
Ils avaient fait In the Army Now.
Ah, c'est
un disco.
Oui, c'est un disco. Ah, je suis
prêt.
On est arrivé là. Alors, peut-être plus facile.
Ah bah oui, c'est plus facile.
Daniel qui chante, non?
Ouais.
Non, mais... Non, vous connaissez.
Pour l'instant.
Souvent venu en France.
Ben Harper.
Non.
Caroline. Ah, Lou Reed.
Joli. Tanguy,
pardon.
Là, bravo.
Caroline says... As she gets up off the floor.
Berlin, c'est joli.
Encore une chanson qui m'a écrite.
Sur l'album fou, Berlin, qui est l'album le plus dépressif.
Ah ouais, c'est Berlin. Ouais, tellement beau.
Ouais. C'est Berlin,
ouais. Tellement beau.
Des enfants
tellement
qui pleurent.
Tanguy Carton, en ce moment, dis donc.
Bah, vous êtes gentil, vous dessinez des titres que j'aime bien.
Attention, tout se joue maintenant.
Daniel.
Oui.
Caroline Love.
Jolie.
Ah, mais oui, Mathieu. Ah, la Watt.
Comment tu l'as volée sur le poteau?
Tranquille.
Bien sûr, j'écoute pas ça. Il est années 80,
c'est impossible. Ah, tranquille.
Victoire de Daniel. Oui, Caroline.
France Inter, la bande originale, avec Nagui et Leïla Kaddour.
Un spectacle un peu fait pour Daniel Morin. Vous le citez même au début, puisque vous rendez un hommage aux alcooliques.
Non, c'est très, très méchant, ça, je suis en plein dry January.
Ça, non, c'est pas vrai.
Il y a que les alcooliques qui font ça.
Oui, c'est pour ça.
Sinon, les autres, c'est une vie normale, oui, ça s'appelle.
On peut le redire avec une bonne articulation.
Non, parce
qu'il est abstème.
Ah. Mot que l'on apprend, en effet, dans le spectacle. Il y en a un autre, d'ailleurs, c'est
Kakistocratie.
C'est le
militaire.
Non, c'est un système dans lequel on confie le pouvoir au plus débile du groupe.
Donc,
je me dis, on pourrait l'utiliser un peu plus.
Voilà, je pense ça très bien. Et Caroline, le spectacle sera donc au Théâtre Édouard VII. Finalement, vous avez toujours la même tournure d'esprit, celle de vous appuyer en tout cas sur des choses extrêmement concrètes, extrêmement factuelles, voire documentées, pour vous en amuser autour avec des valeurs que vous portez, que vous défendez.
Oui, quand j'écris, en fait, j'ai une première phase de recherche énorme, dans laquelle je fais des recherches pour essayer de comprendre, pour trouver, et après, une fois que j'ai trouvé des choses qui m'intéressent, je me dis, bon, maintenant, il faut que je trouve comment les présenter pour être drôle. C'est la deuxième phase.
D'accord, mais quand on recherche quoi, dans quel sens et dans quelle idée? Est-ce que c'est sur l'anatomie des hommes? Est-ce que c'est sur la sexualité féminine? Est-ce que c'est sur les nouveautés d'objets connectés pour atteindre l'orgasme? Parce que c'est des recherches généralement
aussi.
Non, mais très, très sexy et sexuelles.
Pas que, je parle aussi des contes pour enfants. Alors.
Non, mais c'est des horreurs pour enfants, vous voulez dire.
Oui, des horreurs pour enfants. Non, mais par exemple, prenons l'histoire des contes, mais ce qui m'avait fait rire, c'est d'entendre les gens quand, vous savez, la petite sirène.
Ils avaient été choqués. Ah, la petite sirène. Ils avaient été choqués sur la couleur.
Et en disant, des femmes, vous rendez compte, on n'a jamais vu une sirène noire.
Oui, il y a plein de gens.
Oui, alors qu'on a vu beaucoup de sirènes blanches, évidemment. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi les contes, pourquoi ça choque aujourd'hui qu'on les change? Et puis, en faisant des recherches sur les contes et les origines des contes, j'ai réalisé que, ils ont été changés depuis l'origine.
Et puis l'histoire de la petite sirène est géniale.
Oui, oui, parce que la petite sirène, les gens ne savent pas, mais moi j'appelle Janine, celle qui s'énerve en disant Janine n'est pas contente. Mais Janine, elle va s'énerver encore plus quand elle va découvrir que la petite sirène est un homme. En fait, c'est Hans Christian Andersen qui a écrit ce conte, qui est un auteur LGBTQI2SA+, et qui est tombé très amoureux d'un très beau jeune homme qui est en fait le fils de son mécène, il faut le savoir. Et donc ils ont échangé des lettres, mais lui, il est hétéro cisgenre, donc il n'est pas intéressé par cet amour. Et donc l'autre va tromper en dépression, il va être très malheureux, puisque il n'est pas aimé, et il va écrire La Petite Sirène, qui est une métaphore, cette petite sirène qui rêve de perdre sa queue pour être aimée du prince.
C'est beau.
C'est fou, c'est fou, et tout ça est vrai.
Et tout ça est vrai.
Y compris sur la première version de La Belle au bois dormant.
Tout à fait, oui, La Belle au bois dormant, la première version.
C'est un viol.
C'est un viol. Aujourd'hui, on a un débat sur est-ce qu'il faut réécrire ou pas le conte, parce qu'il l'embrasse pendant qu'elle dort, et que du coup, sans son consentement, et donc il y a toutes ces jeunes personnes qui veulent le modifier, toutes les anciennes générations qui disent non, c'est un conte, ça se modifie pas, et je dis ça a déjà été modifié, parce que la première version, c'est un viol. Et ce qui est plus drôle, non seulement le prince, il la viole, mais elle se réveille pas. Elle accouche de jumeaux, elle se réveille toujours pas. C'est un des bébés qui tête son doigt, qui lui enlève l'épine.
C'est
et là,
fou.
Elle se réveille, le prince arrive, mais il est déjà marié. Donc on est sur l'adultère. La méchante reine veut faire bouffer les gosses et après brûler la princesse. Donc on a de l'adultère, du viol, du cannibalisme. Et tout ça, ça a été retiré parce que.
Donc finalement, c'est ce que
c'est
vous
dommage.
Dites.
C'est dommage.
C'est dommage.
C'est dommage.
Finalement, c'est déjà une réécriture.
Le dernier qui a modifié, c'est Walt Disney, parce que lui aussi a modifié. Il y a les frères Grimm, Charles Perrault, chacun a modifié.
Même
le
La Reine des Neiges n'a rien à voir avec
rien à voir. Mais
Peter Pan. Disney en a fait, oui.
Peter Pan est un tueur en série. Dès que les enfants grandissent, il les assassine.
On retrouve l'avocate qui s'énerve à nouveau. Je tiens à le dire.
Et son auteur, voilà, il a des petites tendances pédophiles. Qui sont des petits problèmes aussi. Hein.
Alors, c'est Émile Louis, quoi.
Il y a à la fois cette recherche que vous faites sur notre littérature ou sur des mouvements très particuliers de notre société, mais il y a également beaucoup de vous, de confidences, de confessions, y compris dans votre rapport à votre papa, qui vous avait promis une première fois de venir vous voir à l'Olympia, mais qui n'est pas venu.
Non.
Non, il a dit je viendrai la prochaine fois.
Ouais, il m'avait fait l'Olympia, c'était mon rêve quand j'ai changé de vie et j'ai mis 6 ans pour y arriver.
Je rappelle pour ceux qui avaient raté les épisodes précédents, vous étiez avocate pour faire plaisir à vos parents et notamment à papa.
Ouais.
Et puis vous avez arrêté d'être avocate pour faire chier papa.
Ouais.
C'est ce que vous dites dans le spectacle.
Mais c'est pas faux, hein, c'est pas vraiment faux. Mais du coup, quand j'ai réussi ce moment où vous vous rendez compte que vous réalisez un rêve que vous aviez en visée depuis 6 ans, et je dis à mes parents, ça y est, on y va. Et mon père me dit, bah non, je serai pas là. Je faisais 2 dates en plus, une première et une dernière, ce qui est merveilleux quand vous avez 2 dates. Et donc, il me dit, non, mais ce week-end, en fait, je vais partir avec ma meuf en week-end. Je dis, mais papa, tu peux pas me faire ça. Enfin, il m'a dit, écoute, je viendrai au prochain. Donc j'avais joué un petit peu avec cette petite déception en disant bon, il faut que je refasse Olympia pour que mon père vienne.
Ce que vous avez fait.
Ce que j'ai fait quelques années plus tard, en 2022, et il n'est pas venu.
Non.
Mais il avait une bonne excuse, il était mort.
Voilà. Ouais, c'est une bonne excuse.
C'est la meilleure.
Et vous en riez, entre guillemets, de ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment de gêne dans la salle, on ne va pas se mentir, hein, au moment où vous l'envoyez, parce qu'on sent que c'est vrai, que ce n'est pas uniquement, on se dit, mais elle arrive quand, la vanne? Elle n'arrive pas. En fait, elle arrive quand vous commencez à plaisanter autour du ski, parce qu'il est malheureusement mort.
L'enterrement,
au sport d'hiver.
Et vous dites, c'est dur de faire rapatrier un corps de sport d'hiver. Tout ça, c'est de l'humour noir. On se dit, mais non, mais il y a un moment où ça va, voilà, où la glace va se briser, c'est un mauvais jeu de mots, et vous y arrivez aussi, vous arrivez à nous faire rire, y compris à nous faire pleurer quand même, parce que la fin est extrêmement émouvante, mais je ne vais pas la divulgâcher, on va laisser ça aux spectateurs qui iront vous applaudir au théâtre Édouard VII, et puis j'imagine d'autres dates à suivre en tournée. On va continuer d'en parler jusqu'à 12h30 avec Caroline Vigneault, qui est notre invitée, mais d'abord, Lisa Delpratier. Et vous, Lisa, vous n'auriez pas fait un spectacle comme ça?
Non, désolée, Caroline. Non, en fait, dans votre nouveau spectacle, In Vigno Veritas, vous permettez aux spectateurs de dire la vérité, toute la vérité. Il faudrait plus d'artistes comme vous, Caroline. Quelle noble intention. Quelle énorme erreur marketing. Aïe, Caroline, enfin. Mais les gens ne veulent pas la vérité, ok? Ils veulent croire que le Père Noël existe, que le bronzage de Jean-Pierre Foucault est naturel, et que les Kardashians font juste beaucoup, beaucoup de squats, ok? Les filles, un cul et des nibards en obus de 14-18, ce n'est qu'une question de détermination. D pour docteur termination, chirurgien esthétique dans le 16e. Mais c'est tout à votre honneur, la franchise, et je ne vais pas spoiler les sujets sur lesquels vous vous confiez, mais ça fait du bien, cette honnêteté. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Deuxième mission suicide de votre spectacle, vous voulez réconcilier les boomers et les woke.
C'est vrai.
Les deux anglicismes les plus insupportables depuis, tu sais quoi, on se fait un call et nickel, ben j'attends ton feedback. Les woke et les boomers, c'est un peu les chiens et les chats de la race humaine. Hein. Les chats, c'est les woke, bien sûr. C'est classe dans le projet, mais ça tire souvent la gueule quand même. Et qu'importe le sexe de ton woke, ça ne s'épile pas toujours la moustache. Voilà. Les chiens, c'est les boomers. Ça aime bien rigoler, mais ça chie partout et maintenant, c'est nous qui devons nettoyer. Hein. Quand tu promènes ton boomer en rue, attention, même en 2024, il croit que c'est encore ok de renifler des culs. C'est terminé, les gars. Mais cette guerre entre les boomers et les woke, elle a assez duré. Un boomer, c'est pas un gros mot, c'est un fait chronologique. Si t'es né pendant le baby boom, t'es un boomer. Mmh. Attention, le baby boom, c'est la période entre 45 et 75 pendant laquelle la natalité a explosé. C'est pas une nouvelle technique d'avortement avec feu d'artifice.
S'il te plaît.
Baby boom. Donc ce serait pas un baby boom de confort, ça. Et woke, c'est pas un gros mot non plus, hein. Ça remonterait au 19e siècle avec le mouvement des Wide Awake, les éveillés, qui soutenaient Lincoln dans sa lutte pour l'abolition de l'esclavage. Ah, donc si quelqu'un dit Lisa, elle est woke, ben c'est comme quand quelqu'un dit Lisa, elle est gentille. Je sais que dans sa tête, c'est pas un compliment, mais je rappelle qu'en vrai, ça l'est. Hein. Make gentillesse great again.
C'est vrai, ouais.
Troisième mission casse-gueule de votre spectacle, Caroline, et vous nous avertissez, il y aura du second degré. Voilà. Vous allez dire des choses pas sérieuses. C'est fou qu'une humoriste se sente obligée de prévenir en début de spectacle qu'elle va faire du second degré. Hein, c'est comme si un comédien disait au début d'une pièce, bon, je vous préviens, je vais faire semblant d'être Cyrano de Bergerac. Hein. C'est pas vraiment Cyrano, c'est moi, quoi. Mais je comprends votre prudence, hein, Caroline. Moi, je fais de la scène aussi et les gens sont parfois surpris de nous entendre raconter des conneries. Mais t'es un spectacle d'humour, Coco. Les conneries, ça fait partie du package. Hein. Quand tu vas chez le boulanger, j'espère que tu tombes pas des nues chaque fois qu'il fait du pain, quoi. C'est n'importe quoi. Le problème, c'est que certaines personnes attendent des humoristes qui soient des modèles de moralité. Mais c'est antinomique. Avoir de la morale, c'est comme cotiser pour sa retraite. C'est la bonne chose à faire. Putain, c'est pas marrant, quoi.
C'est vrai.
Si je prends un thème au hasard, disons... Ah. Quoi, Daniel?
Oh, oui.
Ok, le sexe avec les animaux.
Bon. Enfin, un sujet intéressant.
Mais si je choisis l'angle de la morale, je vais vous dire, le sexe avec les animaux, c'est mal. Voilà. Mais si je choisis l'angle de l'humour, Bon, ok, écrivons une blague sur le sexe avec les animaux. Allez, j'en ai une. Le sexe, c'est comme la bouffe. Hein. Faut aller à la source. Les meilleures pizzas sont faites par les Napolitains et les meilleures levrettes, mais par les levriers. Bon, c'est déjà plus rigolo, hein, mais c'est une blague, bien sûr. En vrai, rassurez-vous, je le pense pas. Hein. Les meilleures pizzas viennent des Abruzzes. Tout le monde sait. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'était drôle, quoi. Alors, continue à dire des trucs rigolos, Caroline. Continue à être honnête aussi. Puis moi, je vais changer mes critères de recherche Tinder parce que si j'en crois ma comparaison sur les chiens et les chats, bah, les meilleures levrettes, bah, c'est les boomers qui les font.
Merci. Lisa Del Moitié, In Vigno Veritas, dire la vérité et commencer, vous jouez là aussi, je ne vais pas spoiler, vous n'êtes pas vraiment dans la tenue vestimentaire de l'affiche, vous en jouez d'ailleurs de cette tenue vestimentaire parce que vous êtes totalement vêtu de blanc, costume blanc, t-shirt blanc, le t-shirt a son importance parce que vous en jouez, vous en faites un effet, un outing même sur le no bra.
Le no bra, ouais. Le no bra qui est de, le bra qui vient de, d'un mot anglais, brassière, qui vient d'un mot français, donc brassière.
Ne pas porter, c'est ça, ne pas porter
ce t-shirt. Gorge, ouais.
Et vous dites, et c'est vrai, je suis allé vérifier que...
La poitrine remonte ?
Exactement, que certaines personnes peuvent avoir peur, au contraire, d'avoir les seins qui tombent, et pas du tout.
Parce qu'on nous ment, dans le savoir, j'en fais partie, ça fait maintenant 3 ans que j'ai retiré le soutien-gorge, et mes seins sont remontés de plus d'un centimètre. Donc
pareil.
C'est vrai. Et un confort absolu, et en fait, ce qui est étonnant avec le soutien-gorge, parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, c'est qu'au départ, c'est une libération. C'est une libération, puisque la première femme qui a inventé ça, elle va couper le corset en deux pour essayer de libérer les femmes, la poitrine.
Qui était invivable, insupportable, irrespirable. C'est une punition.
Une punition, ouais. Ça déformait les colonnes vertébrales. Ça rendait,
tombait dans les pommes.
Tombait dans les pommes. On leur sortait des sels. C'est aujourd'hui, les sels, l'ammoniaque, on nous dit, il ne faut surtout pas le respirer. À l'époque, on leur mettait dans le pif. Donc, parce qu'en plus, quand elle tombait dans les pommes, on ne les délassait pas. Donc, la première femme qui va penser à ça, donc, c'est Émilie Cadol. Et elle va couper ça. Et ça va être l'exposition universelle, et c'est là qu'elle va le sortir, sauf que comme il y a la Tour Eiffel, personne ne va en parler.
Elle est éclipsée, ouais.
Et voilà, exactement. Mais cette invention du soutien-gorge qui libère la femme va aujourd'hui se transformer en un carcan. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une première évolution vers la France.
Suite.
Voilà, et la suite, c'est de ne pas en mettre. Alors il y a une nouvelle évolution, maintenant on a des caches-tétons que vous pouvez vous coller sur les seins pour
pas
frottement. Surtout pour pas que ça choque les gens qui les voient. Et moi, chaque fois que quelqu'un me dit, mais.
Non, c'est pour éviter quoi, le regard, parce que vous en jouez en disant maintenant regardez bien,
ça marche.
C'est bien, remontez maintenant vos yeux et arrêtez de regarder.
La première fois, je vous dis c'est la vérité, hein, mais la première fois que j'ai pas mis le soutif en t-shirt dans la rue, et cette histoire est vraie, j'étais gênée. J'avais les épaules comme ça, j'avais mis un gros pull et tout, après je l'ai enlevé, puis à un moment on en a rien à faire, mais la première époque on en a rien à faire, les gens vous le font savoir faire. Ah donc aujourd'hui.
Pas de soucis, Georges.
Tranquille.
Ouais, pas de culotte.
Mais c'est exactement la même.
Ça continue.
Sauf que la culotte, les gens le voient pas. Et là, ils le voient, puisqu'on a les seins qui touchent le t-shirt. Et à chaque fois, je dis, mais si ça te dérange, regarde-moi dans les yeux déjà. Tu vois, tu les vois plus. Les gens me demandent moi.
Une fois que la gêne est passée, le confort que ça vous a apporté.
Extraordinaire.
Est
incroyable. J'ai plus mal au dos. Les filles le font tous les soirs. On retire les chaussures, on frotte les pieds, on retire le soutif, on frotte ses seins, le dos, les marques que ça laisse, parce qu'en fait, ça coupe la circulation sanguine et lymphatique. Et on le frotte, donc on voit bien qu'il y a des marques, il y a un truc qui va pas. Combien de filles me disent oh, j'aimerais tellement le faire. Je dis pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ose pas, parce que mon patron.
Il y a toute une éducation, c'est ça, bien sûr.
Le
regard de la société qui est oppressif.
Et puis surtout le premier soutif, on a envie de le porter quand on a une fille pour faire comme les grandes.
Et puis, vous parlez des dangers du porno, de la masturbation,
porno est un danger.
Le womanizer qui revient régulièrement dans vos spectacles, vous êtes sponsorisé ou pas? J'espère qu'il vous en offre.
Hein. Non, ouais. Alors, oui, ils m'en ont offert un, parce que j'avais fait une vidéo quand même avec mes fils. Où je veux...
Pardon?
Oui. Comment?
Avec une vidéo Adolphe et Staline.
Avec et du coup, avec l'appareil, je faisais, pendant le confinement, j'ai dit ça, c'est votre meilleur ami, les filles. Et les gamins intervenaient à un moment précis, évidemment, tout ça. C'est tourné, n'envoyez pas des messages. C'est prévu.
Les
enfants le savent, c'est de l'humour. Et du coup, mon manager avait écrit, mais ce n'est pas le dernier modèle. On va vous l'envoyer.
Oh, wow.
Et ensuite, il y a Lilo, la marque adverse, qui dit, attendez, vous parlez de mon manager, mais essayez le nôtre, il est super. Donc, je suis devenue un peu une experte. Oh, wow. Ce domaine.
Une testeuse.
C'est merveilleux. C'est la technologie au service du plaisir féminin.
Alors que, ça c'est la technologie, alors que les hommes sont restés encore au manuel.
Oui, ils sont en mode
acoustique.
Pardon ?
Ou à la PS5. Ouais, c'est ça.
Ou le taser. On va avoir un orgasme avec la PS5. Ça vibre, hein.
Tu sais pas où il met la manette.
D'ailleurs, on l'appelle la manette.
le spectacle Invigno Veritas avec l'émotion pour Chlore, émotion qui vous a envahi d'ailleurs lors d'un spectacle que vous avez présenté en rodage, ce que vous expliquez d'ailleurs au public en disant je vais essayer des vannes, puis s'il y en a que vous trouvez drôle, je les garde, s'il y en a que vous trouvez pas drôle, je vais les garder aussi parce que c'est peut-être vous qui n'êtes pas le bon public.
Ça a beaucoup changé d'ailleurs ou pas depuis?
Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que vous dites des choses qui n'y sont plus. Par exemple, il n'y a plus de Staline.
Ah, il n'y a plus de Staline.
Non, aujourd'hui, c'est Ethan Asie.
Ah oui,
jeu de mots, éthanasie.
Éthanasie.
Très bien.
Bien, Nagui.
Je souligne. Caroline Vigneault au théâtre Édouard VII. Mais tout de suite, voici Dormine.
Ça va, vous allez bien?
Oui,
vous avez passé des bonnes fêtes.
Oui,
on s'est pas vu, donc bonne année à tous.
Maillot en or, bonne année à toi.
Ouais, maillot en or, on a un peu de violet quand même.
Toujours. Je me suis inquiété.
Non, ça va, je suis content d'être là. J'ai passé de très bonnes fêtes. Pour ma part, j'ai fait Noël en famille. C'était assez particulier parce que j'ai réalisé que je vieillissais. Cette année, c'était à moi d'endosser le rôle de Père Noël. Parce que j'ai des petits frères en bas âge et du coup, ils y croient encore.
Ah oui.
Et là, on leur a dit c'est leur dernière année. Après, on leur dit qu'il est mort, droit dans les yeux.
Mais non.
Je me suis déguisé en Père Noël et en pleine nuit, ma petite sœur, elle m'a vu me déguiser. Elle m'a vu être le Père Noël, elle savait pas vraiment qui c'était. Et j'ai dû déposer les cadeaux devant la cheminée alors que chez moi, il n'y a pas de cheminée. Du coup, j'ai tout laissé dans le balcon en mode le Père Noël, il rentre pas chez les gens sans leur consentement. C'était particulier parce que ma petite sœur, elle est encore émerveillée, elle savait pas que c'était moi. Et le lendemain, elle se réveille, elle dit à ma mère, maman, il y avait le Père Noël, il a les mêmes chaussures que Nordine. Et on s'est tous regardés en mode, c'est Nordine, tu vois, donc c'est assez particulier. Noël, c'était l'occasion aussi pour beaucoup, comme moi, mais comme pour beaucoup, c'est de se réunir en famille. Et pour moi, c'était vraiment assez particulier, parce que la réunion de famille, je trouve que c'est plus lourd que le repas que tu vas digérer juste après. Tu sais, entre les attentes des festivités, les remarques de ton oncle un peu beauf, ta mère qui veut te marier avec une cousine, c'est très particulier. Surtout que je trouve que c'est vraiment un moment assez sacré, et en même temps qui est long à attendre. C'est un peu comme les impôts, quoi, sauf que les impôts, ils te font pas de cadeaux, ça qui est particulier. Le repas de Noël propose un maximum d'animaux sur la même table, des fois des animaux dont on n'entend jamais parler ailleurs qu'à Noël, genre le chapon. Le chapon, on dirait qu'il est né le 24 et qu'il meurt le 26, et il sert à quoi cet animal? Tu sais, ça devient la star des volailles pendant deux jours, tous les poulets ils doivent le regarder en mode mais vas-y lui il est là pendant deux jours, il vit sa meilleure vie, nous on en nugget chez McDonald's, ils ont trop le seum contre lui. C'est une période qui m'a permis de me rendre compte surtout que j'étais pas très bien en fait. J'ai fait un petit burn-out pour les vrais. J'ai beaucoup joué sur scène et je fais un métier qui est assez particulier. Je fais de la scène comme Caroline et c'est un métier où on n'a pas l'occasion de se rendre compte qu'on va pas bien. On est toujours dans le truc, on veut toujours faire plaisir aux gens et mentalement on va pas bien. Et je me suis rendu compte que j'étais pas bien et j'avais peur, comme si j'avais peur de me poser la question que j'allais bien ou pas. Et je suis allé voir mes parents pour leur expliquer que j'étais pas bien, notamment mon père. Et pour eux, c'était pas des problèmes, parce que c'est très 2024, la santé mentale. J'ai dit, papa, je crois que je fais un burn-out. Il m'a dit, burn-out, si tu brûles, bois de l'eau. J'ai dit, oui. C'est vrai que mon père, il est pas très psychologue, mais il parle bien anglais. C'est ça qui est particulier. Et je lui dis, papa, vraiment, je crois que je vais pas bien, je fais une dépression et tout. Et vraiment, il a pas compris, il m'a dit dépression. Et quand ton père transforme ce qui est pour toi une affirmation en question, c'est qu'il faut se remettre en question. Je me suis posé des questions pour moi, pour essayer de comprendre. Et c'est vrai que la santé mentale, c'est surtout se rappeler qu'il faut prendre soin de soi. C'est beaucoup demander quand on ne sait pas comment s'y prendre. Mais pour moi, ça commence par un costume de Père Noël, le sourire d'une petite sœur ou encore manger un petit bout de chapon. En tout cas, j'ai passé une bonne journée. Merci beaucoup.
Joli, merci. Et ça va, Nordine?
Ça va mieux.
Ah.
Ça va mieux. J'ai laissé pousser mes cheveux pour essayer de créer quelque chose. Ouais, je pense que c'est ça, vraiment. Et puis surtout se reposer. En fait, c'est trop bien de rien faire.
Ah ouais.
Des fois, on prend pas le temps de juste genre s'asseoir et réfléchir à rien.
Se reposer, quoi.
C'est trop bien.
Méditer.
Ouais. Méditer, c'est important.
Très bien.
Méditer, c'est déjà faire quelque chose. Non, mais rien du tout.
Laisser vaquer ça. Tu nous tiens au courant en tout cas. Hein,
non, je vais très bien en tout cas. Et puis quand je vous vois, ça.
On est là, Nordine. Hein.
Vraiment. Moi, je me juste le fait de voir Nagui rigoler, Leïla, Daniel pas boire. Vraiment, je suis trop bien.
T'as vu? C'est possible.
Mais c'est vrai que c'est un métier compliqué, notamment avec la solitude de détourner, etc. C'est facile.
Bah, c'est Thierry Henry qui vient de parler de
ça.
Le footballeur
incroyable.
Français qui a dit voilà, je pouvais pas le dire à un moment, mais j'ai longtemps souffert de dépression, de moments difficiles. C'est quelque chose qu'on commence à dire de plus en plus ouvertement. Vous traversez ça aussi par rapport à la scène, parce que c'est des attentes importantes, comme l'a dit Nordine. Il faut être toujours prêt.
J'en parle en spectacle, mais notamment quand mon père est décédé, je me suis fait engloutir par la douleur. J'ai dû être hospitalisée tellement j'allais pas bien. Et j'ai cru que je rirais plus jamais. Mmh. Et qui était un problème quand on est humoriste. Bon, ma sœur est dentiste, c'était moins grave, mais, mais pour moi, c'était vraiment un souci. Et vraiment, j'ai cru que la joie, l'envie de rire ne reviendrait jamais.
La légèreté, ouais.
La légèreté. Et j'aurais jamais pu, quand papa est mort, parler de lui comme j'en parle là. Mais il y a eu d'abord la première phase, donc vraiment d'un anéantissement total où je pouvais même plus bouger. Après, on reprend un peu, la colère m'a envahi. Pourquoi mon père et pas ses frères et sœurs, c'est affreux, hein, si mes oncles et tantes entendent ça, mais ils vont être... Et en plus, mon grand-père, donc le père de mon père était encore en vie.
Ouais, c'est terrible.
Mon père est mort à 68 ans, son père est mort à 100 ans, et il y avait un truc de... Mais pourquoi
c'est pas le sentiment d'injustice.
C'est pas normal, ça.
Ouais, une colère en moi, même mes enfants qui me posaient la question, pourquoi papy est mort et pas mon arrière-papy, je sais pas. Et quand on a fêté les 100 ans de mon père, toute la famille était là, il manquait
grand-père.
Mon grand-père, pardon. Les 100 ans de mon grand-père, tout le monde était là, sauf mon père. Mm. Et j'étais content pour le moment, mais voilà, j'avais ce truc qui brûlait en moi, donc de la colère, ça, puis petit à petit, l'apaisement.
Ouais, ouais. Et de rire aujourd'hui de sa mort, c'est une complicité que vous recréez avec lui.
Mais en fait, il est omniprésent. Il y a tous les gens qui ont perdu quelqu'un le disent, mais c'est vrai. Moi, je discute aujourd'hui avec mon père tous les jours. Mm. Tous les jours, il m'envoie des signes. Alors après, les gens peuvent imaginer.
Vous allez très loin dans la vanne, parce que vous dites il est omniprésent, et il voit même toutes les coquetteries que je peux faire.
Bah, c'est ce qu'on se dit toujours. On se dit, bon, il est là, je sais qu'il est là, mais après on se dit, mais quand je couche, est-ce qu'il est encore là?
Avec mon blond.
Oui, est-ce qu'il est encore blond. Là donc, il est là quand ça m'arrange. Demain, je fais, voilà, papa, tu peux tout autour de ça.
C'est intéressant, parce que comme l'a dit Nordine, on a cette tendance, quand on va pas bien, à se dire, ok, qu'est-ce qui est drôle dans ce que je traverse, pour essayer d'en faire quelque chose. Mais en fait, c'est bien aussi de sortir de ça et de s'arrêter.
C'est le propre des artistes aussi, c'est de se servir de ces moments de fragilité pour en faire une chanson, pour en faire un sketch peut-être pour vous, un film pour d'autres, ou un roman.
Mais est-ce que c'est pas un mythe, ça, justement, de devoir toujours s'appuyer sur la peine pour créer? Est-ce qu'on n'est pas sur une imagerie un petit peu
ça, pour l'humour, non. Pour l'humour, moi, je sais, quand je suis triste, j'ai du mal à écrire. Hein. J'écris mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que ça parle à des gens.
Pour des chansons, pas mal, assez souvent, quand même.
Pour mes chansons, mais quand les gens sortent de scène, ils vous envoient un message grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on a des contacts, ils nous disent, j'ai perdu aussi une personne et grâce à vous, je vais mieux, ou la suite du spectacle dont on n'a pas parlé mais que vous savez, puisque vous l'avez vu, et que des femmes m'envoient des messages en me disant merci, ou même des hommes, hein, et ben, je me dis l'artiste, ça sert, d'être artiste sert aussi à ça.
Avez-vous reçu des messages d'hommes qui vous remerciaient pour les rassurer sur la taille de leur pénis?
J'aimerais bien, parce que franchement, je fais une démonstration mathématique, implacable,
extrêmement rassurante,
et qui fait du bien à tous les hommes qui le... voilà.
Aller voir le
spectacle, c'est la fin de l'émoji aubergine.
C'est ça, pour passer aux carottes.
Oui, carottes.
Courgettes peut-être, mais carottes.
Carottes, ça suffit, c'est mathématique.
Très documenté.
Non, mais encore une fois, très documenté.
Très documenté, tout est vrai.
Très
documenté. C'est pas drôle.
Notamment, vous parlez de la taille de la cavité vaginale, de la bouche,
du
vagin, du vagin, de la bouche.
Après, c'est un mot qui est choquant, puisque j'ai fait une campagne de publicité, donc avec mon affiche dans le métro parisien, qui a été censurée, puisque j'avais écrit notamment des choses en disant, est-ce que le vagin a le même pH que la bière, hein, puisque je vous l'annonce, c'est une information réelle, le vagin a le même pH que la bière.
C'est même une formidable publicité.
C'est une magnifique publicité, et ça a été interdit.
Oui, vagin, c'est un gros mot.
Et voilà, vagin est un mot qui choque. Est-ce que les cornflakes ont été créés pour... pour lutter contre la masturbation, ça aussi, ça m'a été interdit. Le métro a dit non, mot masturbation, on peut pas le mettre dans le métro.
Pourtant, il y a des gens qui se masturbent dans le métro.
Oui, mais à ça, tu peux le faire, mais tu ne peux pas l'écrire.
Non, mais vous êtes avocate en plus, donc on vous interdit le mot vagin. J'imagine qu'il justifie quelque chose.
Ah non, il n'y a pas besoin de justifier, c'est la régie.
Vous pouvez contester et attaquer.
On peut effectivement, j'aurais pu faire un procès, mais je pense que j'aurais raté le moment où j'allais afficher, c'est-à-dire que j'aurais les résultats à la fin de 3 ans après que mon spectacle soit terminé.
Une action, ça serait pas mal, non?
J'ai lancé une action puisque j'ai fait imprimer les bonnes affiches et que je suis partie dans le métro avec de la colle à papier pour placarder sur mes propres affiches les affiches que je voulais afficher dans le métro. Donc voilà, c'est l'action que je me suis dit serait plus utile. Donc les gens pas dans le métro parisien l'ont quand même vu, mais sans autorisation. Je risque la prison.
Ça, on dirait sur France Inter.
C'est de bons avocats.
Oui. Mais faisons des stickers vagin, quoi, et allons les coller partout sur les affiches dans le métro.
Avec plaisir.
Caroline Vigneault au théâtre Édouard VII.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Vous êtes bien dans la bande originale, vous serez encore mieux avec Hervé dans la peau. Quelques blessures. C'était dans la peau d'Hervé, dans la bande originale sur Inter.
Moi, je suis mieux dans ma peau, je me sens mieux, je la sens soyeuse, ma peau, en ce moment.
On va évoquer la musique dans votre vie. Il y a déjà la première, la musique dans l'intro, sur scène. Et là, vous dites, ça situe l'âge, déjà,
bah oui, quand on choisit Jean-Louis. Je suis sûre que là, à côté de moi, il y en a qui ne connaissent pas.
Si.
Non, pas du tout.
Bah, voilà.
Alliance Ethique, tu connais pas?
Non.
Bah non.
Mais l'intro, elle a un truc.
Et le chanteur fait un podcast en ce moment, il fait des interviews et je l'ai retrouvé, j'étais très heureuse.
Ah, ça je savais pas.
Ouais, voilà. Dans GTA, il y a les mêmes musiques un peu.
Ouais, bah c'est ça.
Vous avez déjà joué à GTA?
Non, jamais.
Vous avez.
Tu la vois la montagne là ou pas?
Alors, tu la vois la montagne, c'est une expression dans la vie de Caroline Vigneault qui veut dire est-ce qu'on est de la pente ascendante ou descendante?
Oui,
en
ou,
fonction
au
de l'âge, ou au sommet. On va évoquer et parler avec Gada Hatem qui a fondé la Maison des Femmes à Saint-Denis. On va parler de ce lieu d'accueil. Et d'aide, notamment pour les femmes victimes de violences, souvent conjugales, mais pas uniquement. On va en parler avec elle tout à l'heure. Mais d'abord, la musique dans votre vie, Caroline. Vous écoutiez en 2008...
C'est la Working Girl.
Beyoncé. C'est un formidable sample d'un titre que je vous encourage à découvrir. Je vais retrouver l'original dans deux secondes, je vais vous le dire. Beyoncé, pourquoi? Parce pour ce qu'elle dégage, justement.
Ouais,
pour
à l'époque, là, je suis en tailleur au talon, dans mon cabinet américain, je fonce.
Vous êtes avocate, à ce moment-là.
Je suis avocate.
Ouais, vous faites des études de droit, vous prêtez serment, tout le cursus traditionnel qui doit rendre tout le monde très heureux.
Très fier.
Très fier. Et vous?
Moi aussi, à ce moment-là, je pense que voilà, tout va bien. Je suis dans ce gros cabinet qui a une belle carte de visite. Je gagne très bien ma vie. Je gagne le concours d'éloquence. Vraiment, tout s'ouvre à moi. Je vais devenir une grande avocate.
Vous vous sentez vivante avec cette robe.
Exactement. Voilà. Ouais, cette robe que je rêvais de porter.
Ouais.
Donc, je suis très fière de la porter.
Mais déjà la scène, en fait, puisque déjà la plaidoirie, c'est déjà une façon de se donner à voir, de donner à entendre un discours. Et puis, vous faisiez du théâtre amateur déjà.
Oui, un peu. Ah, bah, avec des avocats. C'est eux qui m'ont donné le le goût de la scène en fait. Ouais. Tout vient de l'avocature.
C'est où justement, c'est dans quelle situation que vous vous êtes sentie à la frontière entre votre métier d'avocate et celui de comédienne?
Bah, la première fois que je fais une vanne, donc c'est des vannes, faut voir, hein, c'est le corporatisme, donc on est entre avocats, on fait des blagues sur le métier. Donc si vous n'êtes pas avocat, les blagues sur l'article 700, bah, c'est quand même moins drôle.
Pas la ref, ouais.
Voilà, vous n'avez pas la ref. Mais nous on fait une vanne, et la première fois que j'ai écrit quelque chose et que les gens dans la salle rient, on était au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, qui est un très beau théâtre, rempli d'avocats, et on fait cette vanne, c'est un peu ambiance Club Med, quoi, et on fait des vannes, et là les gens rient, j'avais envie d'arrêter le sketch, j'ai dit, attendez, excusez-moi, ça vous a fait rire? Ah, c'est fou, parce que c'est moi qui ai inventé ce, en mettant ces mots comme ça, c'est moi qui ai inventé cette vanne. Et c'est là où je me rends compte déjà que ça me procure un plaisir, ouais, énorme.
C'est pas que des moments drôles aussi, avocate, c'est plaider des causes, enfin, défendre des dossiers peut-être difficiles à défendre?
Même très difficiles, parce que quand.
Vous étiez commise d'office, hein, ouais, c'est encore plus chaud, ça.
Donc, commise d'office en matière criminelle uniquement, ouais, donc les crimes à Paris, hein, c'est 80% de viol, 10% de meurtre, 10% de braquage. J'ai jamais pu défendre un braqueur, puisqu'il n'y a pas plus misogyne qu'un braqueur, et que je me souviens, le premier braqueur que je vais voir en prison, je suis hyper fière, c'est un braquage, quoi, ça claque. Et j'arrive avec mon petit tailleur, je fais bonjour, il me regarde, il fait ok, ça va pas être possible. Je fais pardon, il fait moi, il me faut un vrai avocat. Je fais bah, oui, je suis avocat. Il fait ouais, écoute, c'est gentil, le jour où je vole une baguette de pain, je t'appelle, mais là c'est un vrai braquage, donc je veux un autre avocat.
Ben, reste en prison. Hein.
Attendez, si on fait pas les braqueurs, c'est 10%, il reste 90%. 80%, ce sont des violences conjugales.
Ouais, ou des violences sur femmes. De viols. Moi, j'ai défendu énormément de violeurs. Et ce qui m'a le plus choqué, je parle d'une époque où il n'y avait pas d'avocat en garde à vue. Hein. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que les mecs, quand on les récupérait, ils nous disaient, mais vous me parlez de crime, là, j'ai tué personne. J'ai dit, non, monsieur, vous avez violé une femme, et violer est un crime. Quoi? Violer, c'est un crime? Là, je dis, on a quand même un vrai problème sur l'éducation. Ouais, non mais j'ai eu des trucs.
Mais en termes de condamnation, parce qu'on dit toujours, enfin on dit beaucoup en ce moment, et c'est vérifié, qu'il y a beaucoup de femmes qui portent plainte et que finalement ça n'aboutit pas ou très très peu.
Je crois que le pourcentage est affolant.
Il est affolant, mais pour une bonne et simple raison, c'est la charge de la preuve. Et ouais, on n'arrive pas à prouver, et que en France, en soi c'est une bonne règle, mais là ouais, en l'occurrence on a un problème, il va falloir faire changer la loi. En France, s'il y a un doute, ben vous devez être libéré, puisque la règle elle est simple,
c'est la présomption d'innocence.
Exactement, on préfère
dont
avoir.
On parle beaucoup en ce moment.
Oui, mais il faudrait rappeler qu'elle est pas irréfragable. Hein. C'est pas moi qui vais le dire, mais ça veut dire qu'on peut la démonter en fait. Et quand vous avez une femme qui porte plainte, d'accord, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est long, 13, 14, 15, on commence à se dire bah là il y a peut-être qu'on pourrait changer la loi en fait. Et puis éduquer aussi les garçons. Moi, je m'en souviens d'un viol en réunion. Le gars, hein, disait, bah c'est normal, cette pute, elle porte une jupe. Bon, alors bonjour. Moi, je suis là pour vous défendre, mais je porte une jupe. La juge qui va vous juger porte une jupe. Là, voilà. Et on veut qu'on reprenne les bases. En fait.
Comment on défend quelqu'un comme ça?
Eh ben, on se rend compte qu'il y a un problème d'éducation et qu'on va essayer de le sauver. Et essayer de sauver la société comme ça, et on essaye. Et c'est compliqué parce que ça remonte à tellement loin. Enfin, d'imaginer que si une fille porte une jupe, ça veut dire qu'elle est consentante à tout rapport sexuel, ça monte loin. Quoi.
J'imagine que c'est douloureux de voir d'être face à la victime.
Très douloureux.
Et de devoir défendre son bourreau.
Après, vous savez, on a aussi une clause de conscience. Moi, je l'ai déjà utilisée. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers où vous dites, je veux pas, notamment, je me souviens d'une affaire de pédophilie avec acte de barbarie. On me donne le dossier, j'ouvre, je fais OK, je vais pas y arriver. Donc je l'ai pas fait. Mais il y a des avocats, heureusement, qui sont là pour les défendre. Si vous commencez à dire qui a le droit à un avocat...
Les avocats partent du principe que tout le monde est défendable, quelle que soit l'horreur commise.
Et ben ça, c'est la bonne chose, parce que sinon, on n'est plus dans un état de droit. Si on commence à donner le pouvoir à une personne pour dire qui a le droit à un avocat et qui n'a pas le droit à un avocat, on est dans une dictature. Donc l'état de droit, c'est que même le pire des saligots a le droit à un avocat. Et je vais vous dire, si il y a des preuves contre vous, vous allez prendre le meilleur avocat du monde, vous serez condamné.
Donc c'est-à-dire que, parce qu'en ce moment, on assiste parfois à une forme de tribunal médiatique, que la justice, elle, n'a pas pris suffisamment à cœur les choses et en charge les choses pour que maintenant, on ait besoin, en tant que parfois citoyen, de crier à l'injustice.
Je pense que la justice est une vieille dame un peu poussiéreuse qui a appuyé sur des choses qui n'est pas vraiment au fait que les choses ont changé, que la société change, que l'ancien monde, ben, on n'en veut plus. Et que oui, les boomers dont vous parlez tout à l'heure, qui se permettaient des choses, enfin les vidéos sont en train de sortir, je ne sais pas si vous avez vu la dernière avec Claude François, qui raconte
mais
que...
Mais qui est connu depuis longtemps.
Hein, oui, mais moi j'avais déjà...
14 ans, c'est une fille
de... Voilà. 18 ans. Ouais, 18 ans. De 15 à 18, super. Après 18 ans, elles sont trop vieilles.
Mais elle est connue, cette interview.
Moi, je ne l'avais jamais vue.
Ouais, elle est violente, ouais.
Donc, elle est très violente. Mais ce qui est chouette, ce qu'il faut rester, moi j'essaie d'être positive, c'est qu'on arrive...
Il était même, pardon, entre parenthèses, il était allé encore plus loin, en éditant et en devenant directeur de la rédaction et photographe d'un journal érotique pour pouvoir avoir des jeunes filles mannequins à disposition.
Ah, ouais, c'est chaud.
Ça s'en va la... et ça revient. Chelou.
Non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est choqué par tout ça. Ça veut dire que la société a évolué. Moi, j'aimerais vous rappeler que de mon temps, on regardait Cocorico Cowboy en famille.
Où il y avait un striptease à 8h moins le quart.
Striptease, 8h moins le quart, les meufs, les seins à l'air. Derrière, il y avait Benny Hill avec des petits vieux qui essayaient d'attraper le cul de petites nanas à poil qui couraient. Voilà, donc la société va mieux.
Crazy in Love, c'est ce que vous écoutiez, Beyoncé. Et l'équipe d'enfer a trouvé le sample. Le sample, l'original, c'est Itchy Lights.
Ah oui.
Plus rapide.
C'est clair.
Mais avec un titre qui s'approche aussi, Are You a Woman?
Ah, c'est chômé.
Ah, mais c'est dingue. Ce morceau est dingue. À écouter du début jusqu'à la fin. En 2008-2009, vous écoutiez.
Je ne me mets pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris.
Et vous savez quand vous arrêterez justement d'être avocate,
c'est ça.
Se passe.
Vous rendez votre robe, c'est comment on dit
Alors, bah, j'en ai fait un spectacle qui s'appelait Quitte la robe. Et alors tout le monde me dit c'est ton spectacle, c'est tombe la robe. Non, parce que l'expression chez les avocats, c'est quitter la robe.
Quitter la robe.
C'est pas défroquer, non. Ça c'est pour les curés.
C'est pour les curés. Ouais.
Avec appréhension. Parce qu'on sait très bien qu'on se libère de quelque chose pour aller vers du neuf, du joyeux peut-être, mais peut-être
une
pas.
Angoisse absolue, mais. Surtout que quand je démissionne, en fait, mon patron pense que je suis chassée par un autre cabinet et donc me propose une augmentation. Donc, et malgré tout ça, j'y vais quand même. Donc, et j'ai trouvé au début que c'était injuste. Et en fait, je me dis non, ça veut dire que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que malgré ça, j'y vais quand même parce que l'appel, il est de la scène, il est trop fort et tant pis.
Et puis, vous passez de. J'imagine que vos revenus fondent comme neige au soleil du jour au lendemain.
Non, c'est pas qu'ils fondent, c'est que je passe d'un moment où je gagne de l'argent à un moment donné où ça me coûte de l'argent de travail. Parce qu'au départ, à Paris, les gens qui font de la scène de ça, il faut payer sa salle. Donc on loue. Et quand vous louez et qu'il n'y a personne pour acheter des places, et vous perdez beaucoup d'argent.
Vous vous inscrivez au cours Florent, vous montez votre boîte de production.
Ouais. J'invente une attachée de presse que je n'ai pas les moyens d'en avoir une. Je l'avais appelée Sandrine Nord. En me disant comme ça, je n'oublierai pas son nom parce qu'on ne perd pas le Nord.
Et vous faites ça au téléphone
Oui,
ou
j'invente
vous envoyez des mails.
Je me vois, te vois, j'ai fait les devoirs. Sauf que des fois, je parle comme ça. J'ai aucun rendez-vous vidéo, c'est une actrice, on l'adore. Ah oui, quel jour vous la louez? Il y a une annulation. C'est formidable, alors qu'il n'y a rien. Sauf que la deuxième fois, la même personne appelle et je change d'accent.
Ah mince.
Et là, je me fais cramer.
On va faire un bond en 2021.
Voilà qui je suis.
Barbara Pravi. Pourquoi ce titre en particulier?
Parce que quand je l'ai entendu la première fois, je me suis vraiment sentie transpercée par voilà qui je suis. Je me dis c'est tellement agréable. Aujourd'hui, je le dis aux gens. Parfois, on prend une voie dans la vie parce qu'on est poussé par ses parents, son éducation, le milieu dans lequel on grandit. Et quand on arrive à prendre le recul nécessaire, s'arrêter et se dire en fait, je suis qui moi? Je me prends deux secondes, me dire ok, mes parents, ils sont comme ci, comme ça, très bien. Ils voulaient que je sois comme
ce
ça, mais moi,
ce que je veux personnellement et pas ce que l'on me dicte, c'est ça.
Voilà, et prendre le courage, prendre la liberté d'aller là où on doit, où on sent l'appel. Et pourtant, tous vos signes sont en alerte. Non, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de quitter un métier quand on aime bien, qu'on gagne sa vie, qu'on a fait des études. C'est interdit par la société. Ça ne se fait pas. Mmh. Et vous le faites quand même. Et qu'aujourd'hui, je peux le dire à ce micro, je suis comme j'ai jamais été aussi heureuse et centrée dans ma vie. Voilà qui je suis cette personne-là. Mais ça. Voilà, donc je le dis aux gens, écoutez cette chanson et devenez qui vous êtes.
Et 2021, c'est Flashback. Ouais. Vous réalisez votre premier long métrage pour Amazon Prime. Vous y tenez le rôle principal. Vous êtes hyper bien entourée d'ailleurs dans ce film. Autour de vous, il y a Sophia Aram qui incarne Gisèle Halimi. Il y a Sylvie Testu, Lison Daniel qu'on adore aussi sur Inter notamment.
Gad Elmaleh qui fait Robespierre.
Gad Elmaleh. Il y a aussi dans ce film, ça part aussi d'un de vos sketchs et puis ça part d'un élément bien précis, d'un fait survenu en France en 2018.
Ah oui, pardon, je suis en train de me dire de quoi on parle. La fille est folle. Non, parce que j'étais partie plus loin. En fait, le sketch venait d'une femme qui m'avait dit moi, je suis pas féministe parce que je veux qu'on ouvre la porte. Et c'est comme ça que le sketch va naître. Que je lui ai dit bon, je vais faire un spectacle où j'explique la différence entre le féminisme et la galanterie. Et donc, c'était un sketch qui parlait de l'évolution du droit de la femme. Et je me rends compte que ce spectacle, les enfants ne le voient pas forcément et que j'aimerais bien que les enfants voient pourquoi le féministe. Donc, je vais écrire cette comédie féministe, Flashback. Et je vais partir d'un fait, qui est une avocate. ça se passe en Irlande du Nord, et qui va défendre son client, et c'est un fait réel, qui va défendre son client qui est accusé de viol en disant « la victime portait un string, ce qui prouve qu'elle était consentante ». Et les juges vont la suivre, et la personne va être libérée. Et c'est en 2018. Mmh. Et je regrette, si j'ai un regret sur ce film, Flashback, c'est que la solution, donc je dis que c'est vrai, à la fin du film, il y a les archives, on voit les images donc de la députée notamment qui se bat contre cette décision de justice qui est vraie, et je l'ai mis à la fin, ce qui fait que je pense que malheureusement plein de gens ne le savent pas, parce que ils ont, dès que vous voyez le déroulant arriver, vous arrêtez, et du coup ils n'ont même pas su que c'était une histoire vraie, et c'est le seul regret que j'ai en tant que réalisatrice.
Remonter,
ouais, j'aurais dû le monter plus tôt.
C'est toujours disponible sur Amazon Prime?
Toujours.
Et vous pouvez changer le montage, non, j'imagine, si vous leur demander de le mettre dès le début.
Ouais, je crois pas. Non, on peut pas changer un montage, c'est un boulot de fou.
Ça se tend. Non, mais de mettre le panneau et histoire vraie dès le début.
Ah si, c'est écrit histoire vraie.
Ah ça y est.
Mais l'histoire,
d'accord, pardon.
Ce qui est écrit, c'est que c'est une histoire tirée de l'histoire vraie, parce que toutes les dates dans le film sont vraies, tout ce que je raconte est vrai.
C'est incroyable.
C'est pareil, hein, c'est le même principe. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire.
Oui, et puis la clin d'œil fait pendant le spectacle aussi à Napoléon et à Gisèle Halimi, que l'on retrouve dans Flashback. Vous avez demandé à ce que Ghada Hatem soit présente, bonjour, et merci d'être présente à ce micro. Vous avez fondé en 2016 la Maison des Femmes à Saint-Denis, ce lieu d'accueil. Que voulez-vous en dire, Caroline Vigneault ?
Et je voudrais dire que c'est d'abord, cette femme est merveilleuse, et on aurait besoin de plus de femmes comme elle, et que ces maisons d'accueil, c'est indispensable. Et que malheureusement, l'État français étant complètement absent, heureusement qu'il y a des gens qui prennent ce problème.
Pourtant, c'était une priorité.
Qui sont ? Ils ont distribué des tracts l'été dernier, faut quand même dire.
Qui sont ces femmes que vous accueillez, Ghada ?
Alors, si vous m'appelez Ghada, je vais vous appeler Naji.
C'est Rada.
Rada, pardon.
Ouais.
Mais appelez-moi Najoui, il n'y a pas aucun problème.
Non.
Ok, Naji.
Najoui, ça n'existe pas. Alors ces femmes, c'est Madame Tout-le-Monde. Ce sont des femmes qui, malheureusement, ont croisé sur leur route, dans leur enfance, plus tard, des êtres humains toxiques qui les ont réduites à rien. Ce sont des femmes qui ont accepté beaucoup de choses. Et malheureusement, la plupart du temps, par amour, parce que ça commence très souvent par une histoire d'amour. Et ces histoires font référence aussi aux contes que dont Caroline parle si bien. C'est-à-dire que biberonner avec des contes où on se marie tous et où on a beaucoup d'enfants, on a envie d'y croire. Et on accepte énormément de choses avant de s'apercevoir que non, j'aurais beau faire encore plus d'efforts, être encore la plus sexy des femmes, la meilleure des mamans et une excellente cuisinière, je vivrai toujours dans cette violence, il faut que je m'en aille. Et donc ces femmes vont mal et elles ont besoin de nous, soignants. Et c'est un peu avec cette idée-là que le soin peut aider les gens à sortir de la violence et à se réparer, que j'ai eu envie de créer ces parcours de soins adaptés.
Il y a 4 unités de soins spécialisées, unité de santé sexuelle et IVG, unité mutilation sexuelle féminine, unité violence conjugale, intrafamiliale, sexuelle et sexiste, et l'unité Coralis pour les victimes d'agressions sexuelles et de viols. On a l'impression qu'on parle, en citant tous ces mots, pardon, d'un temps qui est totalement révolu. C'est-à-dire, on a l'impression d'être au Moyen-Âge quand on entend ces mots.
Oui, on l'est parfois. On l'est parfois.
Violence intrafamiliale, sexuelle, c'est-à-dire que les premiers agresseurs sont au sein de la famille, sont des
proches.
Mais
la famille est l'endroit le plus dangereux pour les femmes et les enfants. Mmh. Je cite le juge Durand, qui a malheureusement été démis de la Civise.
Ouais.
Il faut regarder les choses en face. On commence par agresser les enfants, et ensuite tout ça devient naturel. Mmh.
Est-ce que les féminicides ont quand même baissé avec toutes les campagnes faites et de communication et presque d'implication aussi de la part de certaines personnalités ?
C'est difficile d'être formel parce que les associations féministes et le gouvernement ne comptent pas exactement la même chose. Et donc il semblerait que pour le gouvernement il y en ait 20% de moins, c'est peut-être pas tout à fait exact. Mais on voit quand même un impact. Et puis les Espagnols qu'on nous montre tout le temps en exemple, ils ont mis plus de 10 ans à faire baisser la décrue des féminicides ne vient pas claque comme ça parce qu'on l'a décidé, hélas.
Vous aidez les femmes victimes de violences. Est-ce que pour soigner le mal, il faut commencer à la source, c'est-à-dire la pédagogie? Vous parliez des contes pour enfants, donc il y a aussi tout le travail d'éducation.
Tout l'imaginaire,
Et l'école,
énorme. Énorme, et Caroline en parle même avec des adultes qu'elle essaie de défendre en comprenant bien qu'ils ont été pas du tout éduqués. Et donc ça permet de croiser avec l'éducation nationale qui a cette mission importante qu'elle n'assure pas, qui est d'offrir aux jeunes et aux enfants des cours d'éducation à la santé sexuelle, d'éducation en fait à la vie. Qu'est-ce que c'est que consentir? Qu'est-ce que c'est qu'avoir une relation humaine, une sexualité épanouie? Et tout ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse et qu'on ne fait pas. Ça coûte de l'argent, il faut des ressources, il faut y aller 3 fois par an de la maternelle à la terminale. Il faut décider d'investir, en fait. Notre problème aujourd'hui, c'est que dès que c'est cher, on dit « non, mais on peut pas ». On n'a pas assez de gens, on n'a pas assez d'argent. Et c'est exactement ce qu'on nous a reproché quand on a ouvert la maison des femmes. Mmh. On ne peut pas, ça coûte trop cher. C'est dommage, parce que ça coûte trop cher aujourd'hui, mais ça fait des sacrées économies demain. Alors allons-y.
Il y en a combien de maisons des femmes en France ?
Alors, pour le gouvernement, parce qu'encore une fois, on ne compte pas pareil, il y en a une 60aine, parce qu'il finance 60 structures. Nous, on a un petit collectif qui s'appelle Restart, où on est à peu près tous alignés, on travaille de la même façon, on se soutient, on s'épaule, on est 20. 20, donc Paris, Marseille, Rennes, bientôt Toulouse.
Les problèmes de loyer ont été résolus ou pas ?
Non, il faut de l'argent, tout le temps. C'est pour ça que Caroline, elle m'aide. Merci Caroline.
Avec plaisir.
Ça se passe à Saint-Denis, la maison des femmes, pardon, et pour vous aider justement, un site internet pour envoyer des dons, vous soutenir.
Oui, lamaisondesfemmes.fr.
Merci beaucoup, Rada Atem, d'être venue à ce micro. Voici Mélodie Fontaine.
Non, Maggie, désolé, elle n'a pas pu se joindre à nous, Mélodie.
Ah,
non.
Pardon.
Malheureusement, elle a croisé Leïla hier, par hasard, barre des matelots. Il paraît qu'elle se remet doucement, mais rassurez-vous, tout le monde se rassure, tout va bien, la bouteille a été extraite. Alors, on reçoit donc en remplacement Christine Laclanche, ancienne employée à la SNCF. Elle vient nous parler de son livre, une autobiographie poignante qui revient sur son métier. 20 années d'insultes, une plongée en apnée dans une vie, je peux me permettre, du rail, si je puis dire.
Oui, bonjour, bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. Je suis une grande fan, monsieur Nagui.
C'est gentil.
Voilà, oui, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi.
Non.
Ou... Non, bah, je vous avais contrôlé sur le Paris-Brest. Pas le ghetto, hein, le train 48444, je ne sais pas si vous dormiez comme un bébé, voilà. Vous aviez glissé votre petit billet dans le filet devant vous, alors pour vous réveiller, je vous avais caressé doucement la joue.
C'est gentil.
J'avais même lapé votre petit filet de bave. Là, sur le bon.
C'est gênant.
Ah, je vous avais dit pardonnez-moi, monsieur Nagui, mais je crois que vous avez oublié votre brosse à dents, bon. On a de l'humour, faut bien.
Alors justement, Christine, parlez-nous un peu de votre parcours, de votre trajet.
Oui, alors pour venir ici, j'ai pris le RERC, Daniel.
D'accord, oui,
je me suis installée sur un carré.
D'accord.
Le siège, hein. Bien sûr, pas la comédienne. Voilà. En direction de Montigny-Beauchamp, je suis passée par le Champ de Mars, avenue Foch, Épinay, afin d'atteindre la maison de la radio, notre terminus. J'ai fait attention de ne rien oublier dans le train, ceci dit, et de bien étiqueter mes bagages, car c'est obligatoire.
Non, je parle plutôt de parcours professionnel, ce qui vous a amené à écrire ce magnifique livre.
Oh là là, oui, pardon, oui. Daniel, l'habitude, sans doute, hein, quand on fait ça 3 demi-journées par semaine, ça devient un mécanisme très vite. J'ai intitulé mon livre « De rail et d'os ». Voilà, j'ai eu besoin de me raconter. Ouais. C'est là que j'ai couché sur le papier le récit de ce que j'aime à appeler mon chemin de l'enfer. Voilà, il est là, oui. Insultes, frustrations, colibées, condensées dans des dizaines de pages.
7 pages.
Pardon ?
Oui, 7 pages. Votre livre fait 7 pages.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est juste 7. D'ailleurs, vous nous racontez comment vous n'avez pas tout de suite contrôlé les billets des usagers. Non, non. Vous avez d'abord été hôtesse wagon-bar, je crois. Et là aussi, le mécontentement était palpable.
Oh là là, oui, Daniel, vous savez, nous avons une très belle carte au wagon-bar avec la participation de grands chefs. Bah, je peux vous dire, si je m'étais introduit dans le conduit autant de croque-monsieur Thierry Marx qu'on m'avait demandé de le faire, je pourrais éradiquer la faim dans le monde en poussant fort.
Oui, vous racontez un épisode particulièrement violent vers la fin du livre, je crois que c'est page 5.
Oh là là, oui. Il est encore très difficile pour moi d'en parler. C'était sur le Nantes de Bordeaux de 9h36. Le ciel était dégagé, les toilettes étaient presque propres et il n'y avait 46 minutes de retard. Soudain, un freinage très violent à la suite d'un accident de chevreuil sur la voie, encore un. Bref, le train freine, je préparais un macchiato en poudre à 8,90. Le café s'envole, atterrit sur la foule. Popopo, les usagers étaient furieux. J'ai pris pour tout le monde, comme on dit.
Mais vous le racontez dans votre livre, vous avez été courageux, vous avez continué sans prendre d'arrêt maladie.
Oui, c'est vrai. J'ai uniquement pris mes 20 jours de RTT que j'avais cumulés pendant mes 3 semaines de vacances en décembre.
Et puis vous êtes passé contrôleuse, et c'est vrai que vous, les contrôleuses et les contrôleurs, êtes en première ligne, vous prenez un peu pour tout le monde SNCF.
Oui, voilà, tout à fait. Merci de votre empathie. Ça se voit que vous ne prenez pas beaucoup le train, Daniel. Non, c'est vrai qu'on me demande souvent, mais Christine, comment fais-tu pour ne pas dérailler. Et j'aime à répondre, non pas sans humour, hein, vous me connaissez maintenant, c'est juste une question de self-control. Self-control, you made. Vous l'avez?
Oui, Christine, hélas, oui, je l'ai. Merci Christine.
Et quand vous passez, de quoi veux-tu nous parler?
Je vous parlais de la personne que préfère Daniel Morin, mais non, pas Eric Ciotti, Michel Sardou, en concert récemment, il en a choqué quelques-uns, ou plutôt quelques-unes.
De la bande originale, c'est maintenant avec Leïla Gadeboudadi, avec Daniel Morin et avec notre invité aujourd'hui.
C'est Caroline Vigneault.
Et on dirait pas, mais finalement, elle est sympa, Vigneault.
Mmh. Bah oui, elle a du talent. Caroline sur scène avec un spectacle en mouvement, puisqu'il se corrige au fur et à mesure que vous l'éprouvez avec le public. Il y a des soirs où le public est meilleur que d'autres.
Alors ça, j'ai jamais cru à ça. Quand on fait des scènes où on est plusieurs humoristes et il y a le premier qui passe et les autres, alors, vous sentez pas chaud ce soir. Et moi, j'ai envie de dire, si, tu vas voir, dès qu'il y en a un de nous qui va être bon, ils vont être hyper chaud. C'est nous aussi qui ne sommes pas toujours aussi bons.
Et pourtant, il y a tellement de formes d'humour différentes aussi que ça peut être normal aussi de dire sur le second degré, certains accrochent ou pas au second degré, certains accrochent. Il y a des moments de gêne aussi où des personnes, vous ressentez sur ces moments de gêne dans certaines vannes vous faites.
Oui, alors le second degré, j'en parle parce que ce que je dis dans le spectacle est vrai. J'ai fait des vidéos avec mes fils et je reçois à chaque fois, pourtant c'est sur les réseaux sociaux, Caroline Vigneault humoriste, donc il y a quand même quelques indices. Et c'est à chaque fois, c'est mais comment vous pouvez les éduquer comme ça? C'est affreux, vous devriez avoir honte. Alors j'ai envie de dire, mais vous voyez pas que c'est monté, que c'est tourné, non, les gens ils pensent que c'est qu'il y a une caméra dans mon appart et que c'est filmé au premier degré et que je le poste. J'ai du mal à comprendre. Après, je sais que le second degré c'est un art français hein, surtout et il faut pouvoir le comprendre. Mais des fois,
on a le public qu'on mérite.
C'est ce que vous dites. Ouais.
Mais alors je vous raconte une anecdote qui est réelle. Un jour, je suis en répète, je dis j'ai pas du tout de retour. Et le technicien me dit mais tu veux des retours? Je dis non, t'as qu'à pas en mettre, ça sert à rien les retours.
Et dans ma tête, il fait bon d'accord.
Et non, mais voilà, on s'arrête là-dessus, le spectacle arrive et j'ai zéro retour, quoi. Et je sors de scène, je dis putain, j'avais aucun retour. Je dis bah oui, tu m'as dit ça servait à rien de m'en mettre.
Wow.
Et là, je me suis dit, je l'ai dit. Mais c'est vrai, je l'avais dit, donc je peux rien dire. Je me suis rendu compte que tout le monde ne pratique pas le second degré.
C'est comme la mauvaise foi de sa part.
Oui. Je crois, j'aurais aimé, mais je crois pas.
Ou de la connerie.
Ah, merde.
C'est la relation homme-femme, quoi, aussi.
Oui, aussi.
Et comprendre ce que veut dire un individu quand on lui dit de ne pas venir me chercher à l'aéroport, mais en lui indiquant clairement l'horaire d'atterrissage de l'avion.
Mais c'est-à-dire que le langage féminin, quand je me suis penchée là-dessus, je me suis dit, c'est quand même marrant, on parle tout le même langage, on ne l'a jamais appris, ni à l'école, ni dans les bouquins, ni c'est pas ta mère qui te l'a transmis. Et pourtant, effectivement, quand on appelle, c'est chérie, je t'appelle juste pour dire que mon avion atterrit à 18h47, le mec fait tu veux que je vienne te chercher? Et la question, c'est on lui dit bah oui, viens me chercher. On fait non, t'embête pas, c'est pas la peine. Et donc le mec, il entend non, t'embête pas, c'est pas la peine, donc il vient pas. Donc nous, on fait la gueule, donc lui, il comprend pas. Et ça part juste d'un quiproquo, alors que nous, on a l'impression d'être hyper clair. Et je sais pas pourquoi on parle de ça.
Peut-être c'est votre problème, Caroline, vous n'êtes pas claire du tout.
Ah bah apparemment, parce que personne n'est jamais venu me chercher à l'aéroport, c'est vraiment un problème.
Sauf que maintenant, il y a le nouvel amour, et lui, il compte énormément.
Oui, c'est très agréable d'avoir quelqu'un dans sa vie après ces années d'errance.
Mais de le raconter, d'être sans filtre, de pratiquement tout dire sur sa vie privée, c'est particulier quand même aussi, de ne pas se protéger.
Alors, d'abord, je ne donne pas son nom, donc... Après, souvent les gens disent, mais j'ai cherché tous les blonds de la salle.
Il est alpiniste.
Il est alpiniste, c'est vrai. Ouais. Il est alpiniste et il est vraiment blond. Et il est. C'est blond de Gad Elmaleh, le mec. C'est pour ça que j'en ai fait un sketch, parce que je ne pensais pas qu'il existait. Ouais. Et je l'ai rencontré et il est dans ma vie. Et il est tellement, presque tellement parfait que ça en devient chiant. À un moment, tu as envie de lui dire, mais j'essayais de les faire énerver, tu vois, j'y arrive même pas. Même quand il fait, oui, mon amour, moi aussi, je t'aime. Et il me fait, bon, à ce soir. Je fais, non, on s'engueule. Bon, d'accord, alors à ce soir, chérie. J'arrive même plus à m'engueuler.
Parce qu'il a le dictionnaire homme-femme, justement, peut-être.
Parce qu'il est plus intelligent, je crois.
Non, je voulais pas dire que vous, que les autres hommes.
Moi, je le dis.
Que les autres hommes que vous avez croisés ou rencontrés.
Peut-être parce qu'il est souvent à la montagne aussi.
Voici un homme intelligent, monsieur Tanguy, pas sûr.
Voilà. Oui.
Je sais que c'est tentant quand on vieillit de penser que c'était mieux avant. Moi, je suis nostalgique de l'enfance. Mais si aujourd'hui, ça m'arrivait de m'oublier que je me faisais pipi dessus, bon, je serais embêté. Hein, d'autant que ça va finir par revenir tout seul. Dans 25 ans, max, quoi. Hein, la vie n'est qu'une longue flaque d'urine de laquelle on tente comment on peut s'extraire. Mais ce qui fait notre malheur à nous fait le bonheur de Jacob Delafont. Moi, plus je vieillis, plus j'essaie de pas me faire happer par la nostalgie. Ne pas finir aigri, ça devrait être un sport olympique. Parce que c'est comme le 100 mètres haies. Il y en a très peu qui arrivent. Prenez cette polémique autour de Madame Nakamura. J'arrive pas à penser du mal de cette femme. Et pourtant, je suis pas branché de Jaja. J'écoute que des chanteurs glauques qui se sont flingués à 27 ans. Elle en a 28. Hein, donc je me sens pas concerné. J'ai le même rapport au chanteur que Leonardo DiCaprio à ses petites amies. 27 et la limite. Jaja, doudou, poum poum, kiki, tout ça, je m'en tape. Mais j'accepte le fait que l'époque change et ne colle pas à ce que je suis. D'autant que la malheureuse créature va peut-être chanter au JO un vivier de sportifs. Bon bah ces gens-là, ça va leur plaire. Les stades, ils ont réussi à transformer un riff magnifique de Jack White en chanson pour lourdingue. La 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 la. Ta gueule. Hein, j'ai horreur des supporters. Ça fait trop de bruit. À part ceux de la campagne pour les européennes de Raphaël Glucksmann parce qu'ils sont trois, donc on est bien. Et la semaine dernière, j'ai fait une émission sur Teva, la chaîne féminine. J'étais invité avec Andrea Bescon, les chatouilles. Elle a plein de choses à dire. Tellement de combats à mener à côté, je me suis senti un peu nul. Hein, mon principal cheval de bataille à moi, c'est le retour de Grokwik, la mascotte de Nesquik, qui est tombée à cause du racisme anti-jaune. Bon, et là, à un moment, Nicole Ferroni, l'animatrice de l'émission, dit « Sandrine Rousseau a un message pour vous ». Ça m'a fait peur, parce que je me suis dit « Elle va me trouver trop vieux, trop mal, trop blanc. J'ai blémi, ce qui fait que j'étais encore plus blanc. Trois pinsons qui me volent au-dessus de la tête, j'étais une princesse Disney. Je vois apparaître à l'écran le visage à la fois jovial et sévère de Sandrine Rousseau. Et en fait, elle a été gentille avec moi. Elle a demandé, je crois, si on recevait des messages de haine sur Internet. Bon, la réponse étant oui, Internet, ça sert à ça, et réserver des billets de train. Andrea Bescon a répondu quelque chose de plus intelligent que moi, et en fait, ça m'a surpris que Sandrine Rousseau ne me prenne pas pour un grand réac. Je pensais qu'à ses yeux, j'étais ça. Ben non. Et peut-être même qu'Anne Hidalgo, le soir avant de dormir, regarde une photo de moi.
Oh non.
Sans doute même que Macron et Brigitte pensent à moi au moment des préliminaires.
Oh non.
Quand ils lui récitent un poème de Victor Hugo, alors qu'elle répond, tu veux pas la fermer, et puis on sait, pour une fois, sérieux. Et en réalité, je pensais être une sorte de Michel Sardou, mais sans le talent. Et hier, j'ai lu un article sur Sardou que j'admire plus ou moins. C'est quand même l'un des rares chanteurs dont on arrive à chanter le répertoire ivre. Il y a lui et les yeux d'Émilie de Joe Dassin, quoi. Cet article de La Voix du Nord titre « En concert, Michel Sardou blague sur le consentement des spectatrices quittent la salle ». Alors c'était soit des personnes ne connaissant pas Sardou, soit des personnes pensant qu'il avait évolué, parce que j'ai l'espoir que jusqu'au dernier jour, on puisse changer, même un petit peu. Je demande pas à ce que Gérard Carrérou devienne trotskiste. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en concert, Sardou, chanteur favori de Daniel Morin, hein, qui depuis 41 ans réussit à faire croire à France Inter qu'il est de gauche, bon, Sardou dit « Je vais chanter une chanson qu'on ne pourrait plus écrire aujourd'hui. Ah, » ouais. Toujours se méfier de ce genre de phrase, parce que la chanson c'est « Je vais t'aimer ». Et en 76, quand elle est sortie, il y avait déjà d'autres chansons qu'on ne pouvait alors plus écrire, parce que les temps changent en fait. Dans 30 ans, les gens écouteront certains titres de rap hard de 2024 et diront ok, donc on pouvait écrire des choses comme ça sur les gays et les femmes. Sérieusement, je vais t'aimer, c'est une déclaration d'amour passionné à une femme. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Bon, déjà, après avoir dit ça, il faut être à la hauteur. Hein, moi, ça me paraîtrait plus réaliste de chanter je vais t'aimer sans doute moyennement, parce que je suis quand même assez claqué. Au moins l'autre n'attend rien, honnête. Quoi.
Ah, tu m'en veux.
Voilà, et là, Sardou dédie la chanson à Sandrine Rousseau, parce qu'il a l'impression de sortir le texte le plus sulfureux de la terre. Mais ça va, c'est juste l'histoire d'un mâle alpha qui considère le petit bout de viande qu'il a entre les papates comme une sorte de gratte-ciel qui frôle les nuages. Il n'y a rien de plus commun en fait. Mais c'est pas suffisant pour Sardou qui dit « Moi, j'en ai bien profité ». Donc cette phrase déjà fait peur. Les serial killers quand ils se font choper disent exactement la même chose. Et il ajoute « Mais un jeune aujourd'hui qui pose sa main sans son consentement sur la main d'une femme, c'est garde à vue direct. » Donc humour, enfin je crois parce que j'ai pas tous les codes de l'humour. Vous écoutez mes chroniques. Bon, vous voyez bien. Et il conclut en disant « Si le jeune a l'audace de poser sa main ailleurs, là, c'est fleurir mes registres. » Donc l'idée, c'est quoi ? Que quand on pouvait ploter sans accord préalable 50% de la population, c'était chouette. Une petite main au cul dans le couloir de la boîte. Oh, la bonne époque ! On roulait défoncé à 150 km/h aussi. Ouais ! Et le harcèlement dont on fait tout un foin aujourd'hui. Eh, ça n'a qu'à pas être faible, c'est fragile. Je vous foutrais tous à l'armée, moi. C'était mieux avant. Je peux comprendre. Je viens d'avant, avant. Mais le fait que les corps des femmes ce soit plus un open bar, c'est plutôt réjouissant, non ? Les quelques femmes qui ont quitté la salle, alors peuvent, si elles le souhaitent, se tourner vers la chanson « Doux » de Jean-Jacques Goldman, 87, qui donne une version alternative de la masculinité. J'expliquerai pas de l'argent long, le Kama Sutra en 10 leçons, les modes d'emploi notices techniques, j'évite, je serai doux, donc doux plus que Sardou. Merci.
Bravo. La bande originale continue juste après « Cigarette after sex », Terrano Blue. C'était Cigarette After Sex dans la bande originale de Caroline Vigneault sur Inter. Moi, je fume pas, mais bon.
Ouais, moi, j'ai claqué.
In Vigno Veritas, dire la vérité, c'était ça le point de départ, s'amuser avec la vérité. Et ouais. Se documenter, donc, forcément.
Oui, bah, c'était ça, parce que je trouve que c'est toujours intéressant, en fait, de dire des choses qui sont vraies, que non seulement les gens rient, mais en disant, non, mais non, ça, c'est pas vrai. Et après, même, ils vont vérifier. Mais en fait, c'est vrai.
C'est ce que j'ai fait. Et pourtant, dans le spectacle, non seulement vous le dites et vous rajoutez derrière, c'est la vérité.
Ouais,
mais... Et vous dites même, allez vérifier.
Oui,
et
bah, comme...
Et voilà, bah, j'y suis allé.
Vous avez allé vérifier, alors.
Ouais, je suis même allé vérifier c'était quoi? 7 millions. Il y a une étude qui a été faite sur 2500 femmes sur le port du soutien-gorge, ou l'absence de soutien-gorge. Et sur les 2700 femmes, toutes ont eu les seins, entre guillemets, qui ont remonté, je sais pas quelle expression employée, ou en tout cas les muscles qui
C'est les ligaments de Cooper qui sont au-dessus, et avec les soutiens-gorge qui ne travaillent pas du tout.
7 mm par an.
Ouais, c'est magnifique.
C'est une information.
Bah, c'est une information qui donne envie d'enlever ce soutien-gorge.
Sinon, Leïla, d'autres événements.
On va parler d'un jeune homme, il vient d'entrer dans l'histoire. Il lui aura fallu 38 minutes pour entrer dans l'histoire. C'est une première.
Ah, oui. Ouais, je sais, il a réussi à faire le jeu Tetris.
Bravo!
Et oui, voilà, non, pas la musique.
Si. Écoutez-la au moins 15 secondes et votre journée est foutue. Merci, ne me remerciez pas. Il est venu à bout du jeu Tetris sur Nintendo, la version classique. C'est un exploit. Jusqu'à présent, seule l'intelligence artificielle dont vous parlez aussi dans le spectacle avait réussi. Il a atteint le niveau 157. Je dis ça pour ceux qui atteignent péniblement le niveau 10 comme moi.
Moi, j'ai fini Mario, mais c'était un copain.
Il a beaucoup changé, tant mieux.
Oui.
D'où vient, d'après vous, d'où vient ce jeu
Tetris?
Ah bah c'est de Russie.
Absolument.
Il y a une série là-dessus, oui.
Écoutez cette musique.
Alors avec un entrepreneur américain qui essaie de racheter.
C'est une musique russe qui est très connue.
La série Tetris, une série sur sur Tetris.
D'accord. Ouais.
C'est une musique très connue en Russie. C'est un hymne vraiment traditionnel qui est justement. On a donné cette musique-là en référence à cet ingénieur russe qui a créé ce jeu. Alors ce qui est drôle, c'est que ça a été créé en 84 en Russie et c'est devenu quand même une sorte de capitalisme absolu parce que c'est un des jeux les plus vendus au monde. Ça fait partie, je crois, du top 3 des jeux les, qui aura rapporté deuxième, plus d'argent. Deuxième qui aura... Non, tu sais pas. Tu sais pas, c'est chiant.
Ça marche à chaque fois.
Il y a même une maladie Tetris. Il y a l'effet Tetris. C'est quand on continue à voir des briques tomber devant ses yeux alors qu'on n'est plus devant la console.
Évidemment, quand si tu fermes les yeux et que tu t'endors après avoir joué à Tetris.
Caroline, vous avez déjà joué à ce point à Tetris pour voir des briques tomber ?
Non, jamais. Alors moi, j'avoue, je ne suis pas du tout jeu vidéo. Ça ne m'attire pas du tout, les jeux vidéo.
Tout ça pour vous demander, vous vous êtes senti basculer quand dans cette pente ? Alors, soit être au sommet de cette pente dont vous parlez de la montagne, soit de basculer sincèrement. Il y a toujours un élément déclencheur quand on ne comprend pas une référence, quand on ne sait plus de quoi on parle.
Il y a eu plusieurs, évidemment. Mais je crois que le majeur, évidemment, c'est la vue. Hein, parce que j'ai une vue magnifique jusqu'il y a très peu de temps où je commence à plisser les yeux et à me rendre compte que mes bras sont trop courts. Hein, donc ça, c'est quand même un vrai signe.
C'est la vue qui baisse, c'est les bras qui raccourcissent.
Oui, c'est ça, les bras qui raccourcissent. Non, ce qui m'a vraiment frappé l'autre jour, j'étais en voiture, j'ai mon fils à l'arrière et il dit, je peux mettre la musique, maman? Je dis, oui, mais bon, tu mets de la musique de vieux, s'il te plaît. Et il met de la musique et là, je me rends compte que j'ai aucune ref. Et j'entends, il chante. Et moi, j'entends ton petit cul.
C'est ça la musique de vieux pour lui ?
Non, je sais pas. En tout cas, c'est la musique qu'il écoute.
Okay.
Et pourtant, j'adore le rap français. Hein, j'en écoute beaucoup, mais là, je le connais pas. Et je m'entends, je me revois d'un seul coup prolongé, moi, à l'arrière de la voiture, avec George Michael que je mettais donc sur le petit truc à cassette de la voiture, hein, en cassette. Et ma mère qui disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pas de la musique. Et là, je m'entends, je me dis, oh, ça y est, je suis passée à l'avant. Et je suis ma mère. Donc, j'ai plus les refs de musique.
La bascule, la musique sur la clivant.
Sur la modernité, vous évoquez en effet l'intelligence artificielle. Réellement, vous avez demandé un sketch signé Caroline Vigneault à l'intelligence artificielle ?
Oui, je le fais tous les soirs. Déjà, pour
il est tester. Différent chaque soir ?
C'est jamais la même chose.
Et c'est drôle un peu de temps en temps ou pas ?
Et alors, non,
parce que là, c'était pas concluant.
Comme c'est jamais drôle, ça en devient drôle. Et c'est, je me dis, on a un chat GPT, au niveau de l'humour, on est au degré zéro. Surtout qu'en plus, j'adore, c'est qu'il dit, il fait une vanne qui est pas drôle, et après, il fait. Applause du public.
Il y a les didascalies.
Oui, il y a les didascalies.
Mais c'est la version payante en plus.
Et dans la nouvelle version.
Pardon. Oui, non, finissez Caroline. Non, elle n'a pas fini, Nandine, deux secondes.
Non, c'est la nouvelle version. Maintenant, j'ai réussi. Je fais afficher le téléphone à l'écran. Donc les gens voient que c'est en direct.
Et que ce n'est pas truqué. Nandine, oui.
Est-ce que ton nouveau spectacle, tu l'as un peu travaillé avec ChatGPT ou genre juste.
T'es fou ?
Ah non, moi je suis. Justement, j'en parle dans le spectacle. Je dis que j'ai entièrement écrit parce que je suis l'autrice totale. Je n'ai même pas de co-auteur. Et à la fin, je fais un sketch où je dis pour la productrice que je suis, vire l'autrice que je suis, et dit on va prendre ChatGPT. Et je dis aux gens, vous croyez que, et les gens applaudissent, je croyais que ChatGPT ça va être mieux, on va vérifier.
Okay.
Et donc on écrit ensemble, je dis donnez-moi des thèmes. Donc il me donne un thème, je demande à ChatGPT d'écrire un sketch sur le thème choisi par le public, et je joue le sketch.
Une intelligence artificielle payante, c'est-à-dire celle de, entre guillemets, de la meilleure qualité que la.
Et franchement, je vous le dis, les gars, on est tranquille.
On a de la marge.
Invigno Veritas. C'est drôle, c'est émouvant, c'est intelligent et puis on apprend plein de choses, même après avoir quand même vérifié, juste pour la vanne, ces informations-là très rassurantes sur la masculinité. Caroline Vigneault Veritas, In Vigneault Veritas, pardon, au théâtre Édouard VII. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui, déjà pour tous les propriétaires de l'Évrier, qui depuis la chronique Lisa Delmoitier ne regardent plus leurs chiens de la même façon et ont un sourire plutôt chelou. Alors j'ai eu notre veto au téléphone. Il conseille de oublier tout de suite cette idée bizarre et de lâcher cette caméra. Pauvre toutou, Lisa, tu fais beaucoup de mal. Désolé pour tous les producteurs d'aubergines qui, à cause de Caroline Vigneault, ont vu la réputation érotique de leur produit phare tomber. Eh ouais, le rêve est éclaté. La carotte, c'est le nouveau produit. La carotte, c'est la joie. L'aubergine, c'est de la frime. Désolé, enfin, pour tous les défenseurs des droits de l'enfant qui... A raison, sont choqués par le traitement scandaleux dont sont victimes les enfants de notre invitée Caroline Vigneault, exploitée sur les réseaux sociaux. Alors, oui, vous avez raison. Du coup, j'ai pris les choses en main. Caroline, les flics vous attendent à la sortie du studio et en même temps, comme me le rappelait au téléphone tout à l'heure un ancien technicien spécialiste du retour de son, ça fait un moment que vous méritez la tôle.
Merci Caroline Vigneault.
Avec grand plaisir.
Et bravo pour ce spectacle In Vigneault Veritas. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Leïla.
Merci
Daniel, merci à toute la bande.
On se retrouve demain, même endroit, même heure ou presque, puisque nous partirons en Corée du Sud.
Classe.
Avec David Funkino.
Oh, j'en peux plus de Funkino, j'ai l'impression qu'il habite là.
C'est une belle journée sur Internet.